Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes sur Europe 1 et il est actuellement 8h. Nous sommes sur l'émission La culture du monde et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la robotisation du travail et à l'intelligence artificielle. Car aujourd'hui on peut voir qu'il y a un développement accru dans les industries de la robotisation. Et on va s'intéresser à quelle est la place de cette robotisation. Durant notre débat, nos très chers auditeurs, n'hésitez pas à interagir sur nos réseaux sociaux, donc sur notre compte Twitter Europe 1 ou en nous appelant au 02 340 340. Donc nous avons aujourd'hui 4 intervenants, donc bonjour à tous.
Bonjour.
Nous avons Jacques Hivert, qui est un employé chez Renault. Avant, il travaillait, si je ne me trompe pas, dans une chaîne d'assemblage sans robots, et maintenant il s'occupe de 8 robots et il travaille seul.
Exactement.
Donc il se positionne pour l'usage de la robotique dans l'industrie. Nous avons un autre militant. Bonjour.
Bonjour.
Michel Douillard. Vous êtes ministre de l'industrie et vous êtes pour le développement des nouvelles technologies dans l'industrie. Et vous avez écrit un livre sur le rapport homme-machine et son futur.
Tout à fait.
Nous avons comme industriel qui se positionne contre la robotisation. Il se prénomme Georges Dupuis. Bonjour.
Bonjour.
Il est patron d'une entreprise en plein développement dans l'industrie du textile, si je ne me trompe pas. Oui. Et votre entreprise se nomme PFM, Produit Femme.
C'est ça.
Elle a été ouverte en 2010 et c'est une entreprise française d'une centaine d'employés.
Exactement.
Et comme scientifique, nous avons Franck Silver. Bonjour Franck.
Bonjour.
Vous êtes un célèbre scientifique, donc vous êtes spécialisé dans la neurologie.
C'est ça.
Et vous avez écrit un livre nommé « La robotisation vers la chute du travail ».
Oui, c'est ça. D'ailleurs, je tiens à remercier Jean Poisseau, chercheur en neurosciences, et Marc Lupin, un collègue neurochirurgien qui m'ont aidé, qui ont collaboré pour la création de ce livre.
Merci bien pour cette intervention. Donc, Monsieur Franck Silver, premièrement, pouvez-vous nous définir ce qu'est la robotisation d'une manière globale et l'intelligence artificielle ?
Alors, je vais tout d'abord commencer par l'intelligence artificielle parce que c'est un domaine qui me touche un petit peu plus, qui m'intéresse en tant que neurochirurgien. Donc, je vais reprendre une phrase qu'a dit Jean-Claude Dedain, un collègue chercheur. Donc, il a défini l'intelligence artificielle par... En fait, c'est donner à la machine la capacité d'apprendre et la machine apprend grâce à une succession répétée d'images données, donc avec le big data et tout ça. Ce qui est robotisation, ce que j'en ai lu, c'est surtout la substitution des opérations humaines par des robots, surtout pour des tâches qui ne demandent pas énormément de qualifications.
D'accord, merci pour cette définition très précise. Donc, pour commencer ce débat, nous allons nous intéresser à la robotisation et les enjeux économiques. Donc, comme première question, je vais vous poser, qu'apporte la robotisation dans les entreprises au point de vue économique sur la productivité, l'optimisation et la précision des produits ? Fini.
Tout d'abord, la robotisation permet une production mais plus rapide, donc une production qui permet de gagner plus d'argent. Donc c'est que du bénéfice pour les entreprises et permettre d'aider les ouvriers, donc c'est n'est que un plus.
Monsieur Georges Dupuis, pouvez-vous interagir avec ce qu'il vient de dire?
Bien,
sur l'économie, bien sûr.
Si la robotisation arrive dans notre entreprise, le savoir-faire humain disparaîtra. Et donc, des employés vont être virés et ils ne pourront plus vivre correctement car soit ils seront virés, soit ils verront leur charge de travail diminuer et donc leur salaire en même temps.
Si je peux rebondir, je prends mon cas comme contre-exemple, puisqu'à la base, moi étant en tant qu'ex-employé chez Renault, j'étais dans une petite firme une grande firme, mais qui avait beaucoup d'employés et j'étais victime d'un licenciement économique. À cause de cette robotisation. Mais bon, moi, j'ai pu derrière rejoindre une nouvelle entreprise qui est bien développée face à la robotisation et nous avons une croissance qui est très intéressante et les conditions de travail sont beaucoup plus intéressantes en tant qu'employé.
Oui, mais justement, vous avez été viré justement à cause d'une de la robotisation.
Oui, c'est ça. Mais derrière, j'ai retrouvé un travail qui était encore plus intéressant.
Moi, je pense que, comme j'ai dit, la production sera plus rapide, donc les entreprises gagneront plus d'argent, ce qui permettront de les développer, donc de s'agrandir, ce qui aura encore plus d'emplois et ils permettent d'offrir aux ouvriers des formations pour retrouver un travail dans l'entreprise, à une autre tâche.
Alors moi, je vais utiliser mon avis personnel du fait que je sois neurochirurgien et tout ce qui est dans le domaine de la santé. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler des robots chirurgiens d'Avicii, mais c'est des robots chirurgiens, mais seulement spécialisés pour des opérations cardiaques. Et donc ils prennent la place de chirurgiens, ou alors ils sont pilotés par des chirurgiens. Mais niveau économiquement, ces robots ils coûtent très très cher. Juste pour vous donner un avis, il y a environ 2700 hôpitaux et cliniques en France aujourd'hui, et un seul de ces robots coûte dans les 2 millions d'euros. Donc mettre un robot de ce type dans toutes les cliniques ou les hôpitaux, ça s'élèverait à plus de 5 milliards d'euros. Donc 5 milliards d'euros qui pourraient être réutilisés dans d'autres domaines.
Merci pour ces différents...
Non,
c'est bon. Je vous interrogerai prochainement. Donc merci pour ces différentes interventions sur les enjeux économiques. Donc on a pu voir grâce à vous que la place de la robotique a vraiment évolué dans les différentes entreprises. Et maintenant on va s'intéresser plus précisément sur les enjeux sanitaires, donc la place de l'employé dans l'industrie. Et on vient de me dire qu'on a un premier tweet donc de Michel Bianchi. Donc la robotisation est un facteur clé pour un développement de la sécurité dans mon entreprise. Je le conseille à toutes les entreprises de se tourner vers la robotisation. Donc que pensez-vous de ce premier tweet de Mike Bianchi sur la place de l'ouvrier dans l'industrie?
C'est quelque chose qui est plutôt difficile à dire, surtout pour moi, mais... De ce que j'en ai vu, ça remplace énormément, des métiers. Ça coûte énormément.
Merci. Mais
ouais, cette fois, je vais y aller.
Que pensez-vous, Jacques Hiver?
Jacques. Moi dans ma nouvelle entreprise, nous travaillons énormément au niveau des employés avec les cobots. Et donc ces cobots sont justement, comme en parle Mike, une clé pour développer la sécurité dans l'entreprise. Parce qu'il y a dans les cobots justement l'aspect de l'interaction entre l'humain, l'opérateur et la machine. Et cet aspect-là est vraiment très très intéressant. On peut le retrouver dans pas mal d'entreprises. Et donc je pense que ça peut convenir quand même à plus de personnes.
D'accord, merci. Que pensez-vous, Georges Dupuis, sur la sécurité au travail?
Moi, sachant que je n'ai pas beaucoup de robots, je n'ai même aucun robot dans mon entreprise, je préfère garder des hommes et des femmes pour faire mes vêtements, parce que... Il y aura vraiment aucun risque de blessure. Un robot pourrait blesser un humain.
Une machine à coudre aussi. Par exemple, si je prends votre exemple, si vous êtes aussi...
Oui, mais une machine à coudre, ce sera bien moins grave qu'un robot.
Et pourquoi?
Une machine à coudre.
Une machine à coudre, c'est un outil. Un robot, c'est un outil aussi.
Oui, mais sauf que un robot, imaginons que la personne ne peut pas l'arrêter, elle est prise dans quelque chose, et ça va être compliqué, alors qu'une machine à coudre, elle est juste à côté et voilà.
Bah, ça dépend. Dans les grandes entreprises, chez Renault par exemple.
Oui, mais justement, dans mon entreprise, moi, ce ne sera pas possible.
Puis moi, je reviens sur l'idée de Monsieur Dupuis, par exemple, prenons l'exemple d'une d'une opération au cerveau. Si quelque chose se passe mal, ou alors que c'est un robot qui intervient et quelque chose se passe mal, il n'aura pas il ne pourra pas s'adapter à la situation, comme par exemple un chirurgien. Un chirurgien pourra rectifier son erreur, ou alors qu'un robot, il ne pourra pas du tout.
Après, c'est plus la robotisation du sanitaire ici, c'est plus vraiment dans l'industrialisation. Je ne sais pas si ça s'applique vraiment dans le contexte.
De plus, un robot automatisé, s'il est développé, il ne sera jamais mis dans une entreprise en phase de test. Donc, normalement, tout a été mis en œuvre pour que ce soit sécurisé.
D'après Nick Bostrom, directeur de l'Institut du futur de l'humanité à Oxford, les programmeurs de robots ne peuvent pas tout anticiper ce que vont faire justement les robots. Et en fait, comme par exemple, si on demande à un robot de faire sourire des gens, donc vous pensez que il va raconter des blagues ou voilà. Et bah le robot il pourrait très bien comprendre en fait de prendre les joues des.
Oui, on voit l'image.
De prendre les joues des personnes et de les faire monter. Et ça pourrait très bien être autre chose.
Ça dépend de la programmation. Je pense que ça dépend.
Mais oui, mais justement, les programmeurs ne pourront pas tout prévoir.
Il y a beaucoup de.
Il y a tellement de possibilités.
Après, c'est sur une histoire de critères et de.
Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs extérieurs, comme chaque personne est différente, chaque personne pour par exemple le fait de revenir sur le sourire, chaque personne a son caractère, etc. C'est des choses que jamais les robots ils pourront prendre en compte.
Oui, rien n'est que de l'humain, je suis d'accord.
D'accord, merci pour ces différentes interventions. Nous allons
intervenir sur un dernier point.
Une dernière intervention.
C'est qu'on oublie que l'avantage de la robotisation, c'est quand même bien réduit le taux de troubles musculo-squelettiques, que les ouvriers ne peuvent que remercier les robots de les aider dans cette tâche, comme le disait notre ami Jacques.
Mais c'est pas les seules choses qu'ils ont réduites. Par exemple, comme on peut voir avec... avec Google ou alors l'accès facile aux informations, maintenant on cherche plus. Dès qu'on connaît pas quelque chose, donc qu'on veut savoir quelque chose, on cherche pas vraiment. On va directement sur Google, on a la solution. Alors ça fait beaucoup moins travailler notre cerveau et j'en ai l'expérience. En fait, les gens deviennent de plus en plus bêtes avec énormément de robotisation autour de lui-même.
C'est une adaptation.
Après, chacun
est totalement assisté, donc
Monsieur Dupuis, on va clore sur ce sujet et maintenant on va plutôt s'intéresser sur les différents emplois et tout ce qui a été les licenciements. Et pour cela, nous avons un appel. Allô.
Manon.
Comment allez-vous, Manon?
Bien, merci.
Avez-vous une question pour nos internautes?
Oui, aujourd'hui on entend dire que le manque d'emploi est un super à cause de l'emploi. Mais comment faire ces personnes pour l'avenir? Est-ce que l'on y travaillera pas?
D'accord, merci Manon pour cette intervention. Donc je vais laisser mes intervenants réagir. Donc je précise ce qu'elle a dit Manon. Elle vous demande, elle dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'emplois qui vont être supprimés à cause des robots. Et que vont devenir ces personnes? Et à l'avenir, l'homme, est-ce qu'il travaillera toujours ou est-ce que quelle est la place? Et je vous laisse intervenir sur ce sujet pour répondre à Manon.
Je dois dire que d'abord, pour être bien clair, la robotisation, c'est comme le numérique, une vague et personne ne va pouvoir passer à travers. C'est une nouvelle ère technologique qui va arriver. On est en plein dedans. C'est comme la découverte de l'électricité. Ça n'a pas été un fiasco. Hein. Tout le monde a su s'adapter. Pareil, l'invention de la première locomotive, personne n'a voulu rentrer dedans, c'était un scandale, il n'y avait plus de travaux pour les chevaux, pour les vaches, mais la société s'y est faite et maintenant le résultat on y est. Je pense que c'est une vague à franchir et après on fait comme on peut.
Du coup vous voulez dire qu'on est obligé,
on est contraint
à s'adapter.
Oui, mais à quel coût? Parce que la robotique, ça amène énormément de suppression d'emplois. Donc il y aura vraiment un coût énorme sur la valeur humaine.
Il y aura une retransition des emplois, il y aura des changements.
Oui, mais quand vous parlez par exemple de l'électricité, la nouvelle ère de l'électricité, l'électricité c'était pas dangereux. Alors que les robots, ça peut être très bien dangereux.
l'électricité pas dangereux, il y a quand même des expériences du style Nikola Tesla qui ont été démontré que l'électricité pouvait être assez dangereux.
Mais sauf que là, maintenant, dans le général, on sait très bien que l'électricité, c'est pas dangereux, à part être un peu bête.
Pour, est-ce que vous pensez que le robot Neo est vraiment très dangereux quand vous le voyez comme ça ?
Mais sauf que quand on regarde, par exemple, les drones au Pakistan, qui ont tué entre 2014 et 2013 600 civils alors qu'ils ciblaient des terroristes, on ne peut pas dire que c'est pas dangereux.
Oui, mais
on va dire que la robotisation chez les militaires, ça n'a jamais rien fait de très bien pour l'humanité. Hein. Ben, quand on a vu la bombe H. C'est
sauf qu'on peut très bien se dire pareil pour les entreprises. Pourquoi ce serait bien pour les entreprises alors que c'est pas bien aussi
Je doute que les entreprises soient. Enfin, c'est partie des guerres, enfin si les grands industriels mécaniques, mais enfin, c'est pas trop
oui,
dans le même
après,
domaine.
Après, il y a aussi des robots qui deviennent de plus en plus sophistiqués et qui ressemblent de plus en plus à l'homme. Et donc ça devient compliqué. Là, on commence de plus en plus à. Ça devient de plus en plus, compliqué de voir la différence entre une IA et un homme.
Il y a des scientifiques qui ont fait une recherche, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est la vallée de la peur. C'est la vallée de l'étrange, de l'inconnu. Mm-hmm. Donc c'est une courbe qui décrit à peu près, sur un repère en retournant armé, l'évolution des sentiments que ressent un homme envers une machine. On peut voir qu'au tout début, les machines avec les blocs carrés, comme on voit dans les films, on n'avait aucune empathie pour eux. Au fur et à mesure du développement, on trouve que le sentiment de bien-être, de sympathie avec ces robots, il évolue. Mais il y a un moment, on est dans cette période critique, où le robot ressemble tellement à l'homme qu'on peut se méprendre et confondre l'homme à la machine. Et c'est là qu'il y a une grosse peur qui se crée chez les utilisateurs. Et cette pente, ce creux qu'on aperçoit dans la courbe, il ne faut absolument pas la franchir. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse y arriver un jour.
Moi, je voulais revenir sur votre vague de transition. Vous parliez de l'électricité, de la locomotive et tout ça, mais ces choses-là, ça n'a jamais affecté l'homme au point de remplacer. La locomotive, ça remplaçait les chevaux. Bon, voilà, ça n'avait pas vraiment d'importance majeure. Mais là, on parle vraiment de remplacer des êtres humains, des hommes, alors que...
C'est comme remplacer des esclaves sur une galère, par exemple, en mettant un bateau à moteur.
Oui, mais le sujet, là, c'est des hommes dans le quotidien, c'est pas des esclaves. Là, on parle de
travailleurs, d'ouvriers.
Le mot robot du tchèque vient de robota, qui veut dire esclave, qui sert à faire le travail de l'homme.
Mais oui, sauf que les robots, ça peut être dangereux. On sait pas encore ce qu'il peut y avoir. Comme je vous expliquais pour le sourire, c'est pas, on peut pas tout programmer parfaitement. Il peut y avoir des défauts.
Oui, mais avoir peur de l'étrange, c'est avoir peur de l'étranger. C'est pas une notion qui est forcément très bonne à adopter.
Comme il l'a dit. Deuxième exemple avec la locomotive, les gens avant ils avaient peur de rentrer dedans, donc forcément ils voulaient pas, ils disaient que c'était dangereux, alors que maintenant on sait très bien que le risque, il y a quand même un risque, mais
ils sont rentrés une fois et après ils ont plus eu peur. Maintenant là, le robot, on en voit depuis je sais pas combien de temps, mais on en voit depuis très longtemps.
C'est qu'il est en phase de rentrer dans notre univers, dans notre monde.
On est qu'au début.
Il faut juste, comme il a dit, passer dans la phase d'adaptation.
Donc pour vous, pour revenir à ce que vous avez dit, Georges Dupuis, pour vous, l'environnement dans l'industrie, le partage entre l'homme et les machines, c'est impossible pour vous.
Je dis pas que c'est impossible, mais il faut le faire avec dans de bonnes conditions et il faut pas que ça soit dangereux pour l'homme. Surtout pas. Moi, par exemple, ce serait compliqué. Enfin, je préfère avoir des hommes qui pourraient moins se blesser qu'avec des machines.
Voilà, et puis moi, je reviens là-dessus. Au niveau de la chirurgie assistée par la robotique, même si c'est un chirurgien qui pilote la machine, ce ne sera jamais pareil qu'un vrai chirurgien dans l'action.
Je suis d'accord. Au niveau du travail avec les cobots, on n'aura jamais le même ressenti au niveau des pièces.
D'accord. Du coup, là, on vient de parler de l'environnement du travail, donc le partage entre l'homme et les machines. Maintenant, on va s'interroger sur l'environnement naturel, donc la nature. Et pour cela, nous avons un autre tweet de Sir Rabbit, un anglais. Donc, il faut croire qu'il y a des anglais qui nous écoutent sur Europe 1. Et il s'interroge sur la robotisation se développe pour un monde meilleur ou pour un monde où la pollution règne. Donc c'est sur des enjeux sanitaires, sur la pollution.
Et moi je pense que la production robotisée sera une production plus précise, donc qui aura moins de gâchis, moins de pertes.
Donc plus de recyclage.
Plus de recyclage aussi. Donc, par exemple, dans un champ, on pourra voir avec des capteurs où il faudra arroser le seul endroit où il faut de l'eau, donc on perdra moins d'eau.
Bien, moi, pour parler de l'environnement, quand on regarde des IA, les IA font forcément un stockage de données conséquent. Et donc, il y a les data centers pour cela. Et en fait, d'après une étude de Le Monde, la consommation au mètre carré d'énergie, c'est égal à 37 fois celle d'une maison. Donc, ce qui est énorme. De plus, 100 personnes qui envoient des mails par jour, c'est égal à... C'est égal à 33 mails par jour pendant un an, c'est égal à 23 allers-retours Paris-New York. Donc ça veut dire que les data centers consomment énormément d'énergie.
Vous parlez en quelle unité bah, quand vous dites des 22 allers-retours, c'est en quoi, c'est
22 allers-retours en avion.
D'accord.
Okay. Puis pour rebondir là-dessus, je connais pas beaucoup ce domaine-là. Mais j'imagine que rien que produire les robots, ça demande énormément d'énergie. Alors que. Donc voilà, moi je m'y connais pas énormément de ce côté-là, mais j'imagine que produire des robots, ça demande beaucoup d'énergie, comme produire beaucoup de choses. Mais si on commence à en mettre partout, je veux dire, ça va forcément avoir un coût sur l'environnement.
Oui, je suis d'accord. Bah, au lieu de consommer des énergies fossiles, comme on disait avant, on va commencer à faire soit de l'éolienne, donc des énergies renouvelables, du solaire, soit encore un peu nucléaire, mais il y a aussi un nouveau réacteur qui est en train de se développer, un réacteur à fusion, qui est en projet. Et quand celui-là sera lancé, si ça fonctionne, il n'y aura aucun problème à se faire au niveau de l'alimentation d'énergie.
C'est sûr, mais c'est que des hypothèses à ce point-là, alors que là, il y a déjà les
projets déjà en cours. En fait.
Oui, mais c'est des hypothèses. Vous avez dit, vous avez utilisé le SI. C'est des hypothèses, alors que de nos jours, il y a quand même énormément de robots qui sont déjà utilisés. Donc il y a déjà de la pollution de réaliser.
C'est une transition énergétique.
Mais du coup, pour vous, il faudrait réagir maintenant. Au lieu de développer les robots maintenant, il faudrait plus se concentrer sur les énergies renouvelables et après, dans une seconde partie, se concentrer sur le développement de la robotisation.
Au lieu de dépenser des fortunes dans de la robotisation qui n'est pas forcément nécessaire, plutôt l'investir dans la recherche pour des énergies renouvelables, oui, quelque chose comme ça.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Et maintenant, on va s'interroger sur l'intelligence artificielle et l'éthique. Donc, que pensez-vous du rapport homme-machine et les limites de l'intelligence artificielle? Monsieur Douillard, pouvez-vous interagir sur la question que je viens de poser?
C'est-à-dire que, en tant que ministre, je ne vois pas trop cette question d'éthique, mais je pense que le robot sera... Il restera une machine, donc l'homme restera. La relation homme-homme ne devrait pas changer tant que ça.
Oui, mais la relation homme-machine, quand on voit qu'un robot a obtenu la nationalité saoudienne il n'y a pas longtemps, on se dit que. On n'est pas loin d'être dans un rapport robot-homme.
Ça devient plus que des robots.
Oui.
En tant que neurologue, l'intelligence artificielle, je m'y intéresse énormément. Et ce que je vois énormément, c'est qu'on ne la contrôle pas vraiment. Les grands noms de la planète comme... Google, même Facebook avec Mark Zuckerberg. J'avais vu que Mark Zuckerberg, il travaillait sur une intelligence artificielle qu'il a dû arrêter en urgence parce que l'intelligence artificielle, elle avait déjà commencé à créer son propre langage. Donc c'est quelque chose qu'on contrôle pas forcément et qu'il faut faire extrêmement attention à ça.
Pouvez-vous développé sur Mark Zuckerberg pour les internautes qui ne connaissent peut-être pas.
Mark Zuckerberg, c'est donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour les internautes qui ne connaissent pas, c'est le créateur de Facebook. Je pense que beaucoup de monde ici a un compte Facebook. Moi-même, j'en ai un aussi qu'un compte Twitter.
Merci bien pour ce débat. Maintenant, nous allons conclure. Donc, nous avons parlé de différents points qui est sur les enjeux économiques, sur les enjeux sanitaires, donc avec les différents emplois qui ont été supprimés ou le renouvellement des emplois. On a aussi parlé de l'environnement du travail, donc le partage de l'environnement de travail entre l'homme et la machine. Nous avons parlé de l'environnement global, donc sur la pollution qui est très importante des robots. Et enfin, nous avons parlé de l'intelligence artificielle et ses limites. Donc je vais vous remercier tous les quatre pour vos différentes interventions. Donc, merci Michel Douillard, ainsi que Jacques Hiver, Georges Dupuis et Franck Silver.
Merci à vous.
Je remercie ainsi aussi nos internautes qui ont interagi sur nos réseaux sociaux et à l'appel de Manon. La semaine prochaine, nous parlerons du développement durable qui a aussi un fort impact et un fort rayonnement sur les différentes personnes. Et merci à Europe 1 pour ce moment passé avec vous.
Merci à vous.
Merci.